Benoît Basirico et Cinésic dans Vive le cinéma sur Aligre FM pour presque une heure consacrée à la musique de film. Ravi de vous retrouver pour une deuxième saison sur cette antenne. Au sommaire de cette émission de rentrée, notre sélection musicale du mois dans les salles, à la télévision et en court-métrage et même au théâtre. Dans les salles, un film est à l'affiche cette semaine, Mercenaires, premier long-métrage de Sacha Wolf que nous recevons avec son compositeur Luc Mélan. Sacha et Luc, bonjour.
Bonjour.
Pour le court-métrage, Manuel Bleton vient nous parler de sa musique pour Rocambolesque, qui vient de recevoir un prix dans un festival. Manuel, bonjour.
Bonjour.
À cette occasion, Manuel vient inaugurer une rubrique dans l'émission dans laquelle il nous fera découvrir des raretés glanées en vinyle. À tout à l'heure. Et pour le théâtre, nous recevons Romain Trouillet à l'affiche du théâtre du Palais Royal avec Edmond de Alexis Michalik. Romain, bonjour.
Bonjour.
Sans plus tarder, pour commencer, nous nous intéressons à l'actualité des BO avec la musique de deux films sortis le 7 septembre dernier, France et Jeunesse. Pour France, Philippe Rombie retrouve François Ozon pour la 11e fois. Dans cette production franco-allemande en partie en noir et blanc, Pierre Niney revient des tranchées de la Grande Guerre. Une partition délicate allie un piano épuré et des cordes amples. Après France par Philippe Rombie, nous venons d'entendre Jeunesse par Ulysse Klotz, musique du premier long métrage de Julien Samani. La partition électronique est tout en contraste avec un film fantomatique et cauchemardesque adapté d'une nouvelle de Conrad. France et Jeunesse sont sortis le 7 septembre dernier. Avant de s'intéresser à Mercenaires avec ses protagonistes, nouvelle salve de nouveautés avec Nick Cave, celui qui vient de sortir avec les Bad Seeds son nouvel album Skeleton Skeleton Tree, sorti le 9 septembre. Il a signé la BO d'un film sorti la même semaine, Comancheria, avec Ben Foster et Chris Pine, deux frères braqueurs et bracassés, traqués par le ranger Jeff Bridges. Avec son comparse Warren Ellis, pour le réalisateur anglais David Mackenzie, Nick Cave livre une partition instrumentale folk country digne d'un western. Et juste après, juste la fin du monde. Après Comancheria par Nick Cave et Warren Ellis, à l'instant juste la fin du monde, le compositeur français Gabriel Yared retrouve le réalisateur québécois Xavier Dolan après Tom à la ferme. Grand prix au dernier festival de Cannes, juste la fin du monde, sorti le 21 septembre dernier, propose une tension et étrangeté par son unité de lieu et de personnages réunis dans une maison de famille. Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Marine Cotillard, Vincent Cassel, la musique est bien le sixième personnage de ce film. Également présenté au dernier festival de Cannes, Mercenaires, magnifique premier long métrage, et nous recevons son réalisateur, Sacha Wolf, et son compositeur, Luc Meillant. Rebonjour.
Rebonjour.
Le film est à l'affiche cette semaine, le 5 octobre. Il s'agit d'un premier film. Le projet de départ, c'est de raconter l'histoire, j'imagine, de ce jeune Valisien qui brave l'autorité de son père pour partir jouer au rugby en métropole. Quel était le désir initial pour ce film, Sacha Wolf?
Bah, en fait, fait, moi, au départ, j'avais envie de faire un film autour du rugby parce que je trouvais que c'était un sport qui n'était pas beaucoup exploité au cinéma. Moi, j'ai toujours adoré les films de boxe, par exemple, comme Fat City de John Huston ou Rocco et ses frères, qui a été un film très important dans la fabrication de celui-là, dans l'écriture. Et puis, un jour, je suis tombé sur un article qui parlait du quotidien des joueurs étrangers, samoans, fidjiens, tongiens, essentiellement océaniens, en fait, dans les tout petits clubs amateurs de France. Et je me suis dit que voilà, là, il y avait peut-être un sujet à aller explorer. Et en faisant des recherches, j'ai rencontré un joueur wallisien qui s'appelle Paki, qui joue dans le film. Et cette rencontre-là, elle a été incroyable parce que les Wallisiens sont français. Et du coup, c'est une part de l'identité française ultramarine qui est complètement méconnue et dans lequel, voilà, il y avait un sujet qui rejoignait aussi beaucoup de préoccupations que j'avais pu avoir avant sur les questions de l'identité, de ce sentiment d'être étranger au monde et surtout, voilà, qui interroge le rapport colonial qu'entretient la France avec les territoires d'outre-mer.
Le choix du compositeur, c'est intervenu à quel moment, quel stade ?
C'est intervenu au début de l'écriture. Luc, je le connais depuis presque 20 ans. On a fait nos études ensemble à 18 ans. On s'est rencontrés dans une école qui s'appelle Cinésup, qui prépare au concours de la FEMIS et de Louis Lumière. Et puis ensuite, on s'est jamais lâché. En fait, on était colocataires quand on avait 19 ans. Ensuite, on a fait la FEMIS ensemble la même année. Donc, on est sortis ensemble et j'ai toujours travaillé avec Luc, soit au montage son de mes films, soit à l'écriture de la musique. Parce que Luc a cette double casquette qui m'intéresse beaucoup et qui permet d'avoir, voilà, une sorte de réflexion autour à la fois de la musique du film et du montage son.
Il y avait une note d'intention musicale à son égard ou pas ?
Non, il n'y avait pas une note d'intention écrite, il y avait beaucoup de conversations. En fait, même au tout début, on a travaillé sur le scénario avec Luc. Le projet était assez différent, mais l'idée du film est presque venue à deux, en fait, au tout début. On avait l'idée de travailler au départ sur une équipe d'adolescents. Et puis finalement, ça a évolué. Luc, il a joué au rugby quand il était plus jeune. Donc voilà, j'ai toujours beaucoup discuté avec lui de... beaucoup plus largement que la musique du film, en fait, et de son écriture et de la façon dont le film se construisait.
Et Luc Meillant, comment vous présenteriez votre partition pour ce film ?
Elle est multiple parce que, en fait, elle a commencé. J'ai commencé effectivement à y réfléchir alors que Sacha n'avait pas encore fini son scénario. Et ça a commencé avant d'attaquer vraiment la BO en elle-même, la musique off. Il fallait, pour les besoins du tournage, composer plusieurs musiques, notamment les musiques qui se passent dans les boîtes de nuit. Et même la musique qu'on entend dans le stade de rugby pendant les matchs qui sont joués par des fanfares, il fallait les composer avant. L'équipe en avait besoin pour le tournage, donc ça a commencé là, par ces musiques dites additionnelles. Et ensuite, comment je la présenterai pour ce qui est du reste de la musique, c'est une musique qui voulait un peu représenter, à la manière du film en général, une sorte de genre qui n'existe pas, qui est très attaché à sa géographie. C'est un film qui est océanien. Et l'idée, sans faire la musique ethnographique, comme le film ne l'est pas du tout ethnographique, c'était de rechercher des sonorités nouvelles qui illustrent un peu ce continent qui est un peu invisible, le continent océanien, par une orchestration un peu particulière, un peu singulière, notamment l'utilisation des conques, des coquillages, qui est joué par un tromboniste qui s'appelle Sébastien Lado, qui est tromboniste de jazz, mais qui, par ailleurs, joue des coquillages. Et l'idée était de lui mélanger à un instrument, pour le coup, beaucoup plus occidental, qui est un peu la clé de voûte de la musique, qui est de l'orgue d'église, joué dans une église.
L'idée, en fait, c'est que le film se déploie dans des univers qui sont très ritualisés, en fait. Le film a quelque chose de très liturgique. Il y a beaucoup de, voilà, il y a la coutume wallisienne, il y a la religion chrétienne catholique qui est très présente, et le monde du rugby qui est aussi quelque part une religion, en fait. On y retourne tous les dimanches, etc. Et finalement, la musique va dans ce sens de liturgie. Et l'idée, ça a été de mélanger l'orgue, qui est l'instrument typique de la liturgie occidentale, aux conques, qui sont un autre instrument avant, mais finalement, le mélange de ces deux textures, très occidentales, facturées, et très océanien, et un peu primitif dans le coquillage, raconte pour moi l'identité, en fait, du personnage.
On sent cette élégie comme ça dans cette musique de mercenaires composée par Luc Meillant pour ce film réalisé par Sacha Wolf, nos invités. On entend ici une forme de lyrisme. On a souvent entendu parler de la Fémis, des élèves de la Fémis qui étaient un peu allergiques à la musique. On sent là, vous venez de la Fémis, que vous aimez exprimer pleinement les sentiments par la musique.
Ah oui, pour moi, la musique au cinéma, c'est crucial. Moi, j'adore la musique au cinéma. Ça vient certainement de mon parcours et de mon histoire. Je viens d'une famille de musiciens, en fait. Mes parents sont instrumentistes, mon grand-père est chef d'orchestre. Toute ma famille, ils sont tous musiciens. Donc, finalement, pour moi, le cinéma, au départ, ça a presque été un choix par défaut. Je pense que j'étais peut-être un peu taillé pour faire de la musique. Et puis, finalement, j'étais très, très mauvais. Le cinéma était une façon pour moi de faire de la musique avec des images. Mais j'adore... en fait, dans ce film, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'était à la fois de travailler sur cette musique off qui apporte ce lyrisme et ce côté... on va dire très fictionnel, assumé, et en même temps de penser à la musique in dans le film, parce qu'il y en a énormément, en fait, des petites cellules comme ça. Il y a des chansons traditionnelles wallisiennes, il y a des chansons qui sont... Il y a un air d'opéra qui est chanté par un pilier à la fin d'un match, un air de Don Giovanni. Il y a cette idée un petit peu de la tragédie, en fait. Le film a une sorte de tragédie avec le chœur qui parfois suspend le récit et où on se permet des moments de pause musicale comme ça à l'intérieur de ce récit qui est quand même assez rythmé.
Alors ce personnage, Sohan, incarne la diversité culturelle entre deux pays. C'est incarné par les chants, par ce monde polyculturel du personnage est incarné dans la musique par ses chants traditionnels, chants polynésiens, militaires, valisiens. Comment ce travail de chant s'est construit ?
C'est des chants qu'a choisi Sacha avec ses personnages, notamment le chant d'adieu de la grand-mère qui est interprété par donc le personnage de la grand-mère de Soane, qui est un chant militaire qui est une invitation aussi au voyage et un chant d'adieu.
L'idée c'était que on allait pendant le tournage enregistrer énormément de musique en plus, c'est-à-dire que la plupart des... Il n'y a pas de comédien dans mon film, si ce n'est Iliana Zabet qui joue le rôle de Coralie, mais sinon c'est que des gens qui sont pas comédiens. Et en fait, le chant, la tradition du chant chez les Wallisiens, c'est extrêmement présent. C'est-à-dire qu'on chante à tous les repas, on chante... Il y a une sorte de tradition qui s'approche un peu du blues, en fait, qu'il y a beaucoup de chants de travail dans les chants et ce genre de choses. Et du coup, l'idée, c'était de collecter un petit peu ces chants. Donc avec l'ingénieur du son, on est resté quelques jours en plus à la fin du tournage juste pour enregistrer les chants. Et en fait, on a aussi enregistré certains instruments, comme le lali, qui est un instrument de percussion, pour ensuite redonner ces sons-là qu'on a échantillonnés à Luc pour qu'il puisse les réutiliser lui dans sa création de bande-son. Mais par exemple, le chant que la grand-mère chante au début du film, c'est vraiment quasiment un hymne wallisien, quoi. C'est un chant de départ au service militaire. Les Wallisiens partent énormément à l'armée, en fait. Et voilà, il y a vraiment une tradition que je voulais faire exister parce qu'elle elle raconte aussi cette culture et ce monde-là. En fait, il se trouve que j'ai fait appel à un musicien wallisien qui, lui, a l'habitude de chanter aux enterrements. Par exemple, il a écrit la chanson d'enterrement du roi de Wallis, le dernier roi qui est mort. Il faut savoir qu'à Wallis, il y a toujours un roi, en fait. C'est le dernier territoire français où il y a un roi, avec Futuna, où il y en a deux. Il a fallu que je lui explique et que j'arrive à le convaincre d'accepter d'écrire cette chanson. Parce qu'à chaque fois, en fait, que lui allait chanter pour des enterrements, souvent... il me disait qu'il y avait des conséquences dans ses familles, que souvent lui perdait des membres de sa famille, enfin que ça restait jamais anodin. Et finalement, il fallait arriver à lui faire accepter et comprendre que c'était de la fiction. Ça m'a pris à peu près 3 semaines, en fait, où je suis passé quasiment tous les jours chez lui. Et il y avait quelque chose un peu à la Buena Vista Wallis Club, c'est-à-dire que il y avait beaucoup de vieux musiciens qui se retrouvaient, on en discutait, il a fallu construire le groupe. Il a écrit cette chanson qui finalement raconte l'histoire d'un des personnages du film, mais qui est une chanson totalement écrite pour le film, dans cette tradition de chansons d'enterrement wallisienne qui ressemble à une élégie, effectivement.
Éloge funèbre dans Mercenaires.
Thank you.
Éloge funèbre dans Mercenaires, et malgré le titre Éloge funèbre, il y a de la joie dans cette musique, et tout le film est comme ça. Il y a beaucoup de violence dans le film, mais en même temps il demeure joyeux, solaire. Il y a une énergie, le personnage incarne cette énergie, le personnage n'est jamais plombé. Ça fait partie de sa personnalité.
C'était l'idée, ouais, de faire un film globalement assez noir, hein. L'histoire est assez, il y a quelque chose de l'ordre de la tragédie, je l'ai déjà dit. Mais il y a aussi, je voulais faire exister des moments plus légers, des moments comiques. Une des références, c'était Kurosawa, par exemple, qui arrive toujours, dans, par exemple, La Forteresse cachée, avec son duo de personnages paysans comiques. Voilà, il y a toujours un peu de bouffonnerie, en fait. Il y a toujours de l'humour, et finalement, je trouve que ça permet de complexifier l'univers, de le rendre vivant, les choses sont pas toutes noires ou toutes blanches pour moi, elles sont toujours complexes. Mais effectivement, l'idée c'était d'arriver à faire exister chez ce personnage qui pèse 120 kilos, énormément de douceur, en fait, de filmer ces corps qui sortent de la norme de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma, et de casser ces idées reçues qu'on a sur les rugbymen, qui ne sont pas des gens avec un pois chiche dans le cerveau, au contraire, c'est des gens extrêmement sensibles.
Alors, qui est Omar Hassan, qui est un ancien joueur de rugby, qui est également chanteur d'opéra?
Alors, c'est un ancien international argentin. Il a joué très longtemps en France, à Toulouse notamment, à Agen. Et il a joué plusieurs Coupes du Monde avec l'Argentine. Il a notamment été le bourreau de l'équipe de France en 2007, lorsque l'Argentine nous a battus deux fois. Mais à son époque, c'était vraiment le meilleur pilier droit de sa génération. Et il est devenu chanteur d'opéra, en fait. Il se trouve qu'à Agen, il a toujours chanté, mais je sais plus comment ça s'est passé. Mais je crois qu'il a rencontré un chanteur qu'il a entendu chanter, qui lui a dit « tu devrais chanter ». Et il a pris des cours, et aujourd'hui, en fait, il est devenu chanteur. Il est plus rugbyman. Il est toujours intégré dans le monde du rugby, mais il fait des spectacles de tango, il chante de l'opéra, il est parfois invité à chanter l'hymne argentin à certains matchs. Voilà, c'est un personnage incroyable.
Alors, Luc Meillan, vous êtes également monteur son. Vous avez par exemple fait le son des Ogres de Léa Fener, La fille et le fleuve d'Aurélia Georges, ou encore L'Astragale de Brigitte Si. Pour Mercenaires, à quel point vous avez aussi travaillé le son de votre musique?
Alors j'ai travaillé le son de la musique, mais j'ai aussi fait le montage son du film. Quand on est compositeur, c'est bien à un moment de laisser faire un peu les autres et d'avoir une oreille externe, à savoir le mixeur et les autres protagonistes du film que sont Sacha et le mixeur général du film. Après quand même, j'ai fait un travail préalable, notamment sur les coquillages. C'était des sons, en fait, donc je vous disais, je travaillais avec un tromboniste qui jouait des coquillages. Et l'idée, c'était de pouvoir me servir de matière. Donc, en gros, j'ai enregistré avec lui plusieurs types de sons, c'est-à-dire des tenues, des glissando, mais à la manière d'une sonothèque, en fait, que j'ai répertoriée. Et ensuite, je me suis emparé de cette matière pour les retravailler en les ralentissant, en changeant leur octave. Ça rentrait dans le cadre du travail d'écriture, pas de mixage, de création de son. Bon, c'est un travail de commun, d'enregistrement, d'orgue. En fait, ce qui était compliqué pour l'orgue, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de parties à enregistrer. Donc, c'était pas une partition qu'on enregistrait d'une seule traite. Ça, c'est un peu ma particularité. J'ai tendance un peu à empiler les strates, mais ce qui donnait un peu de singularité dans le son de l'orgue, parce qu'on mélangeait les jeux de flûte, les jeux de trompette, plusieurs types de jeux. Et après, dans la bande son générale, alors moi je dirais que le compositeur, c'est le moins bien placé pour peut avoir son idée de comment placer sa musique dans le film, dans la bande son, comment la hiérarchiser par rapport aux autres éléments de la bande son. Mais comme il y a un côté trop viscéral, je pense, du compositeur avec sa musique, il faut laisser faire. Donc en l'occurrence, le mixeur du film, Édouard Morin, c'est lui qui devait décider comment la mettre plus ou moins fort dans le film. Le compositeur ne peut pas écouter de manière assez détachée pour juger de la pertinence de son placement, je crois. Donc voilà. Après, on donne son avis. Après, moi, je suis pas du genre à lâcher l'affaire. Et comme j'étais en position de monteur son dans l'auditorium de mix, là où tout se décide finalement. Quand même, je levais mon petit doigt, je disais, et si on essayait quand même de mettre un peu plus fort telle ou telle chose, hein, quand même. Mais bon, le débat était ouvert.
En tout cas, le spectateur, lui, ne va pas passer à côté de cette musique qui soutient le film et ce travail sonore dans la musique de Mercenaires. Mercenaires à l'affiche ce 5 octobre. Mercenaires, donc, musique de Luc Meillant, film de Sacha Wolf, dont on vient d'entendre un nouvel extrait. Luc Meillant, vous avez fait la musique de trois premiers longs métrages, La Belle Vie de Jean Denisot, Qu'un seul tienne et les autres suivront, premier long métrage de Léa Fener, et Ce Mercenaire, premier long de Sacha Wolf. Le fait de faire un premier long, c'est aussi débuter avec un réalisateur, ça va être assez gratifiant.
Oui, c'est gratifiant, bien sûr. Après, est-ce que c'est différent de travailler ? C'est vrai que moi, j'ai plutôt l'habitude, pour l'instant, en musique, de faire des premiers films. Mais bon, après, je suis pas sûr que le fait que ce soit des premiers films, ça change fondamentalement l'approche. Je crois qu'il y a autant de musique de films que de réalisateurs et de leur approche, de comment justement ils appréhendent la musique. Il y a des réalisateurs très généreux avec la musique. Je pense à Sacha, je pense à La Belle Vie, c'était... Oui, l'idée d'une générosité, un peu d'en donner aux spectateurs, de se dire bon allez, on est au cinéma aussi, on y va. Enfin, c'était plus, c'est différent. Le travail était très différent avec Léa Fener, qui était plus dans une sorte de subtilité, de placement justement de la musique. Vraiment, c'était un film très très écrit, très très dialogué, donc il fallait faire attention à que la musique prenne pas le pas, et en même temps dans une couleur très très différente.
Et votre style de compositeur de musique de film est très varié, et vous avez
J'en ai pas, hein. On peut le dire. non, mais c'est moi je l'assume totalement, ouais. Ce côté caméléon, de m'adapter au film, au récit.
Et le travail toujours instrumental, le choix des instruments, par exemple dans La Belle Vie, guitare, banjo, accordéon, violon, harmonica, guimbarde,
flûte à bec
et sifflement.
Et sifflement, bah oui.
Écoutons La Belle Vie. Nous pouvons la remarquer, ce melting pot de genres musicaux pour ces musiques de Luc Meillant après La Belle Vie. À l'instant, un documentaire casse dans une casse de voiture où cette musique comme ça amène quelque chose de pop à ce côté un peu comme ça de chaotique de cette casse. Très intéressant ce travail. Donc Luc Meillant, on va continuer à suivre votre travail musical et puis aller voir le 5 octobre Mercenaires, magnifique film de Sacha Wolf qui espérons va trouver son public après ce succès cannois, on peut dire. nous allons découvrir en avant-première un film qui sort dans plusieurs semaines et plusieurs mois. Le film sort le 16 novembre. Il s'agit de Planétarium, film de Rebecca Slotowski. Et Rob retrouve Rebecca Slotowski après Belle Épine et Grand Central. Il s'agit d'un film où la petite et la grande histoire se mêlent, puisque Rebecca Slotowski, pour la première fois, va évoquer la Shoah. Planétarium, donc, musique de Rob. Planétarium, partition de Rob, qu'il nous a confié en exclusivité, cette partition pour le nouveau film de Rebecca Slotowski. Écoutez, un petit sifflement très beau pour ce film. Et je tiens à signaler que le label Music Box Records va publier un coffret 3 CD incluant donc les 3 films de cette collaboration Rebecca Slotowski-Rob. Et Rob lui-même va rendre disponible par son label Hippocampus un vinyle de sa partition qui va s'intituler Autour de Planétarium, dans lequel sera inclus à la fois la partition du film ainsi que des morceaux non retenus au montage final. Planétarium, donc, on y reviendra sur Aligre FM. Maintenant, un choix de court-métrage, Rocambolesque, un film de Loïc Nikoloff. Manuel Bleton, le compositeur de ce court-métrage, est ici présent avec nous. Rebonjour.
Bonjour.
Cette partition que vous avez composée a remporté un prix au Festival des Notes et des Toiles de Pont-à-Mousson en septembre, le 22 septembre dernier. Rocambolesque est un film qui se déroule au 19e siècle. L'écrivain d'un feuilleton quotidien doit faire survivre le personnage de Rocambole qu'il a inventé. Quelle a été cette intention musical pour cette partition du 19e, c'est un peu le côté un peu vintage.
J'ai rencontré Loïc il y a 2 ans. Il m'a fait lire son scénario. Il y avait déjà pas mal d'indications sur la musique et surtout sur la lumière. Et je me suis pas mal appuyé là-dessus en fait pour travailler sur les couleurs, la lumière. Et Loïc est un fan de musique de film aussi. Donc voilà, j'ai lu le scénario. Il y a aussi le rythme du scénario qui était important, les dialogues, déjà la petite musique des dialogues. Et ensuite, j'ai réuni tous ces éléments et je suis allé dans ma discothèque, j'ai écouté des auteurs de l'époque. Mmh. Saint-Saëns, Loïc est fan d'Offenbach aussi, donc j'ai écouté aussi des titres d'Offenbach ou Ducas, etc. Du Second Empire, en fait, des auteurs du Second Empire. J'ai dans un premier temps composé pour une image, qui était un peu la synthèse que je me faisais de son film. Et ça a donné la musique du générique. Donc je lui ai proposé cette musique, qu'il a réutilisé d'ailleurs pratiquement tel que au final 2 ans après il m'a rappelé en me disant bon bah on va travailler ensemble et ensuite on a abordé tout le travail de synchro en partant de ce thème
rocambolesque, musique de Manuel Bleton. La musique passe d'une action à une autre. Il y a un côté presque même Walt Disney dans la mesure où cette musique passe d'une action à une autre, d'un moment de suspense à un moment d'émotion.
Mmh. Oui, il fallait suivre effectivement le rythme du film. Mmh. Donc ça, c'est un peu logique qu'il y ait des changements. Voilà.
Rocambolesque. Donc voilà, bravo pour ce prix remporté à Pont-à-Mousson. Et puis le film sera présenté au Festival du film francophone de Tübingen le 4 novembre prochain.
Et à Paris-Courdevant.
Très bien, Paris-Courdevant également.
Et au Festival d'humour de Meudon.
Eh bien super.
En octobre.
Belle carrière pour ce rocambolesque. Manuel Bleton, vous êtes aussi avec nous pour autre chose, inaugurer une nouvelle rubrique où vous défrichez votre collection de vinyles. Vous allez de brocante en brocante pour trouver des raretés et vous nous en révélez 2 chaque mois. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce premier titre que vous avez défriché, sans révéler lequel. À vous de deviner de quel compositeur il s'agit.
Thank you.
Alors, est-ce que vous avez deviné de quel compositeur il s'agit ? Grand compositeur de musique de film, une rareté donc en vinyle, on entend le craquement du vinyle, le charme vintage de ce titre. Il s'agit donc d'un titre, je vous laisse le dire, Manuel Bleton.
C'est La Tempête d'Ennio Morricone, extrait du film Le Temps du Destin, un film de 1988 dirigé par Grégory Nava et qui raconte une histoire basée sur l'opéra La Force du Destin de Verdi. Et donc Morricone a écrit une musique de film à la fois passionnée, radieuse, pour une histoire qui mélange amour, guerre, vengeance et famille.
C'est la première collaboration de Morricone pour Grégory Nava, donc c'est intéressant comme unique partition. Le Temps du Destin, voilà, bah, ça nous invite aussi à voir le film pour découvrir cette partition qui n'a jamais été éditée en CD. Donc grâce à ce vinyle, nous pouvons l'entendre. Maintenant, deuxième titre, rareté, il s'agit d'un film d'horreur, je crois.
C'est un film d'horreur, alors on remonte 23 ans en arrière, et Morricone compose pour Mario Caiano un film qui s'appelle Les Amants d'Outre-Tombe. Et donc effectivement, c'est un film de genre, un film d'horreur. Et le film a été projeté pour la première fois en juillet 65. Et vous allez voir qu'on est assez proche de finalement de. Alors le son n'est pas le même, effectivement c'est le son des années 60. Et c'est construit sur un ostinato, une musique assez répétitive, comme Morricone le fait assez souvent d'ailleurs. Mais on est dans la même tonalité que Le Temps du Destin et pas très loin dans l'esprit.
À l'époque, en Italie, on passait d'un genre à un autre. Et en fait, Morricone retrouve son réalisateur après un western, Mon Colt fait la loi. Et pour préciser, en fait, le réalisateur de ce film, Mario Caiano, était l'assistant réalisateur de Sergio Leone pour une poignée de dollars. Et donc, c'est intéressant, grâce à vous, Manuel Bleton, de découvrir cette partition rare, Les Amants d'Outre-Tombe, ce film d'horreur avec Barbara Steele. Ennio Morricone. Ah, on sent dans l'instrumentation, on reconnaît Morricone, ce qu'il a pu aussi faire avec Elio Petri par ailleurs. Voilà, Ennio Morricone, rappelons-nous de cette richesse instrumentale d'Ennio Morricone. Rappelons également qu'Ennio Morricone était en concert au Palais des Congrès le 24 et 25 septembre dernier, donc Morricone est toujours vaillant et dirige toujours ses concerts lui-même. Rappelons également, signalons que Vladimir Kosma sera en concert le 9 octobre prochain, ainsi qu'un concert John Williams, mais sans lui, par l'Orchestre Colonne le 15 et 10 et 16 octobre prochain à la salle Wagram à Paris. Voilà pour les petites infos concerts. Il est toujours intéressant à Paris d'aller découvrir des musiques de films en concert. Et maintenant, après le court-métrage, après Morricone et après les concerts, nous nous dirigeons vers le théâtre, et particulièrement au théâtre du Palais Royal, puisque se joue en ce moment une pièce, Edmond. Edmond, c'est Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, et la pièce raconte la mythique première de Cyrano, avec 12 comédiens sur scène. C'est une grande fresque tragicomique, une pleine de romanesque, et la musique est signée Romain Trouillet. Romain Trouillet, rebonjour.
Bonjour Benoît.
Alors cette musique pleine de romanesque également, comment se confronter à Cyrano de Bergerac qui dans l'inconscient est aussi nourri de musique ?
Oui, effectivement, en fait, la musique est pour moi le reflet de ce qu'est Edmond. En fait, il y a deux facettes. Il y a une facette qui est plutôt de l'ordre de la comédie, puisque c'est une comédie en fait cette pièce. Et une facette qui est de l'ordre du lyrisme, qui accompagne ses improvisations, en fait, parce que tout le long de la pièce, il fait que improviser, chercher, et donc voilà.
Alors ce qui est intéressant, c'est pour ça que nous vous recevons dans une émission de cinéma et de musique de film, c'est que vous êtes aussi compositeur de musique de film. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ce travail pour Edmond est également proche d'un travail de musique de film ?
Oui, exactement. En fait, là, le travail que je fais avec Alexis, en tout cas, comme ça l'a été sur le cercle des illusionnistes et sur cette pièce, est un travail très cinéma. En fait, la musique a vraiment été appréhendée comme on peut l'appréhender pour des images. J'ai d'ailleurs travaillé sur scénario. Enfin, la musique accompagne les textes, elle est derrière les textes, chose qui commence à l'être, mais qui n'était pas très fréquent au théâtre, où les musiques étaient plutôt destinées à des changements de scène et tout ça. La musique accompagne vraiment les émotions des personnages. Enfin, il y a un langage très cinéma, même aussi dans le langage même de la musique.
Mmh. Donc. Vous avez signé la musique de plus de 6 courts-métrages. Et là, le metteur en scène est Alexis Michalik, oui, de cette pièce Edmond. Et il est également acteur et réalisateur, et même compositeur, d'après ce que j'ai lu.
Ah bon ?
Est-ce qu'il avait des indications musicales précises ?
Non, Alexis, enfin, si, il y avait des indications, mais sur Edmond, Alexis m'a envoyé sa pièce assez tôt et m'a demandé de réfléchir sur la musique. Mmh. Ce qui est vraiment agréable avec Alexis, c'est que je travaille pas avec des theme tracks ou ce genre de choses.
Il place pas de musique référencée.
Voilà, c'est ça. Et il m'a vraiment permis de réfléchir à un langage musical que je lui ai proposé, qui a accepté, qui a vraiment aimé. Et voilà, enfin, c'est un rapport. C'est ça aussi que j'aime bien dans le théâtre, c'est qu'on peut faire de la musique de cinéma sans avoir toutes ces contraintes, peut-être, qui peuvent, comme les theme tracks, par exemple, qui sont très récurrents dans le cinéma. Au théâtre, ça l'est moins.
Et la pièce se joue en 1895, qui est la date, oui, de la naissance du cinéma, et on entend parler de Méliès, de Lumière. Cette pièce se joue en fait Cyrano de Bergerac au moment où le cinéma est naissant, et il est moins question de musique de film du coup dans les dialogues que de musique savante. Et par exemple, on entend le boléro de Ravel.
Oui.
Ça a été réarrangé de votre part ?
Oui, alors le boléro, on a un peu triché avec, parce que effectivement, il voulait que le boléro de Ravel, Alexis voulait que le boléro de Ravel accompagne vraiment la création de la pièce. Il y a même un anachronisme, c'est que Maurice Ravel est présent aussi là, il est petit, et bon, il arrive en disant oui, j'ai écrit un boléro, alors que c'est une pièce qui n'est pas une pièce de jeunesse. Et tout le boléro a été réécrit pour y introduire de temps en temps le thème même d'Edmond, en fait, le thème que j'ai écrit. Tout a été réarrangé pour que ce soit réalisable en fait sur scène.
D'accord, mais écoutons un extrait, le prologue de ce Edmond, pièce d'Alexis Michalik, qui se joue jusqu'en janvier prochain au théâtre Palais Royal, musique de Romain Trouillet.
Thank you.
Musique de Romain Trouillet pour la pièce de théâtre Edmond qui se joue donc au théâtre du Palais Royal. Alors contrairement au cinéma où finalement il y a le cinéma, il y a le film définitif, on n'y bouge plus une fois on n'y touche plus une fois qu'il est sorti. Est-ce que pour une pièce de théâtre où il y a des représentations où les comédiens fluctuent leur jeu ou leur timing, est-ce que musicalement vous avez retravaillé sur la musique depuis la première représentation?
Non, pas depuis la première représentation. Faut savoir que avec Alexis Michalik, les comédiens font presque une chorégraphie en fait. C'est-à-dire que tout est millimétré sur scène. Ça laisse assez peu de place à l'improvisation. Tout est là. Et par contre, la musique est aussi un travail sur mesure. Enfin, je l'associe presque à un travail de couture, puisque je retravaille les musiques, je retire 4-5 secondes, j'en rajoute là. À la demande des comédiens, je peux rajouter aussi des sons qui peuvent leur permettre comme un bruit de cloche. À la fin du Boléro de Ravel, par exemple, il y a un appel où j'ai des cloches qui viennent pour les prévenir. Attention, dans 4 coups de cloche, ça va être la fin. Enfin, tu vois, il y a ce genre de travail-là qui est fait.
Luc Meillant, vous avez composé pour le théâtre ou pas? C'est quelque chose qui peut vous intéresser?
Oui, ça peut m'intéresser complètement, parce que je pense que c'est un travail qui se rapproche de celui de cinéma. Et non, j'ai fait une fois de la bande-son pour une pièce, Femme de parloir. C'était Brigitte Sy qui a réalisé La Strayelle, qui mettait en scène cette pièce. Et non, je composais de la musique, mais avec des sons de prison. Plutôt avec des voix, c'était des chœurs assez violents, mais ils sont très musicaux dans un sens.
Et Sacha Wolf, une mise en scène de théâtre, ça n'a pas été fait?
Ah non, j'ai jamais travaillé pour le théâtre, mais oui, ça pourrait m'intéresser, tout à fait. Ouais.
Signalons que beaucoup de réalisateurs en ce moment passent au théâtre, notamment Thierry Cliffa, et je voulais le signaler, puisque là aussi un compositeur de musique de film fait la partition. Alex Baupin, le compositeur de Christophe Honoré, fait chanter Fanny Ardant et Julia Faure dans la pièce Croque-Monsieur au théâtre de la Michaudière, dirigée par Thierry Cliffa. Merci à vous tous, merci Sacha Wolf et Luc Meillant pour ce magnifique mercenaire. Merci Manuel Bleton, et on se quitte avec une autre partition. Merci Romain Trouillet, donc une autre partition de Edmond au théâtre du Palais Royal. Au revoir.
Merci.
Au revoir. Au revoir.